L'objectif, finalement, de notre vie de chrétien, on a déjà la conclusion de la prédication, c'est que Dieu, puisse finalement nous aider à manifester tout ce qu'il y a en nous, tout ce qu'il a caché, tout ce que nous, on ne voit pas, et que ça se manifeste aux yeux du monde. D'accord? Ça, c'est notre conclusion ce matin. On va voir un petit peu comment y arriver. Et puis, Cassandre, est-ce que tu as le verset que Sandy nous a donné au tout début? Et on va un petit peu essayer de lier tout ce qu'on a entendu, tous ces chants et puis la prédication. Ça roule? Est-ce que ça résonne de votre côté? Non, ça va? Vous m'entendez bien là-bas? Super. Vous avez vu, il y a deux nouvelles baffes, hein? C'est pour vous là-bas. Vous pouvez dire merci. Alors, ça arrive. C'est ça, Sandy, c'est bon? Ouais, je vais lire les quatre. C'est ça? J'ai mis tout mon espoir en l'Éternel, il s'est penché vers moi. Moi, c'est ça qui m'a marqué. D'accord? On va lire la suite. Il s'est penché vers moi. Et ça, c'est important, et ça va vraiment être le point clé de la prédication, c'est que c'est Dieu. Et là, on parle de l'Éternel, on parle de Dieu, il n'y a pas encore la révélation de Christ. Et David va dire, bah, Dieu s'est penché vers moi, c'est lui qui est venu à moi. Il a prêté l'oreille à ma supplication, il a entendu ses prières, il m'a fait remonter du puits de destruction et du fond de la boue. Il m'a remis debout, les pieds sur le rocher, il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, un hymne de louange pour chanter notre Dieu. Quand ils verront ce qu'il a fait, beaucoup voudront révérer l'Éternel et lui faire confiance. D'accord? Et ça, c'est très prophétique. Parce qu'on revient aux deux versets précédents, au début. Voilà, j'ai mis mon espoir en l'Éternel. Eh bien, nous, quand on reçoit Christ, on met notre espoir, on met notre espérance en lui. C'est ce qui se passe. Parce que lui s'est penché vers nous. Et ici, qui peut dire que Dieu ne s'est pas penché vers lui? Peut-être que vous pouvez le dire, mais la réalité, c'est que si vous faites vraiment l'histoire un peu de votre rencontre avec Christ, vous vous rendez compte que c'est lui qui s'est penché vers vous avant que vous ne regardiez vers lui. Avant même que vous preniez conscience qu'il vous cherchait, c'était lui qui s'était déjà adressé à votre cœur par les circonstances, et chacun a un témoignage différent. Et ensuite, il prête quoi? L'oreille à ma supplication. La suite? Il m'a fait remonter du puits de destruction. Qui n'était pas dans la destruction? Ça, c'est la repentance. Là, on voit David qui a un cœur repentant, qui dit, mais j'étais dans la destruction. J'étais dans une vie dissolue. J'étais dans quelque chose qui m'emmenait vers la mort. Là, il y a la notion de repentance. Tout l'évangile ici, en quelques phrases, eh ben, est résumé. Du fond de la boue, il m'a remis debout. C'est lui qui m'a consolidé. C'est lui qui m'a fortifié. Les pieds sur le rocher. Une préfiguration, le rocher, on sait que le rocher, c'est qui? C'est Christ. David, il ne connaissait pas Christ. Vous voyez ça, ce chant qui est profond. Il a affermi mes pas. Qui peut dire que Dieu, à un moment de sa vie, a affermi ses pas? Je ne vous sens pas avec moi là, ce matin. Moi, je peux dire que Dieu a affermi mes pas à un moment donné. Il a affermi mes pas. Et la suite? Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau. Mes paroles ont changé, mes pensées ont commencé à changer. J'ai commencé à parler différemment. J'ai pu louer Dieu. J'ai pu parler différemment. Mon âme a changé. Ensuite, un hymne de louange pour chanter notre Dieu. Quand ils verront ce qu'il a fait. Et là, il s'adresse au monde. Moi, j'ai vécu quelque chose et maintenant, il faut que je donne. Quand ils verront, quand les autres verront ce qu'il a fait dans ma vie, qu'est-ce qui va se passer? Beaucoup voudront révérer l'Éternel et lui faire confiance. Et la Bible parle de, on chante, tous genoux fléchiront, toute la terre reconnaîtra, tout le monde verra. Mais moi, si je regarde autour de moi, eh bien, les gens, tous, ne révèrent pas l'Éternel aujourd'hui. Ce n'est pas encore accompli, c'est prophétique. Beaucoup viennent à Christ, quand on prêche l'Évangile, voilà, des cœurs se tournent vers lui. Mais la réalité, c'est qu'on n'est pas encore dans ces temps où tous ont vu Christ. Christ n'est pas encore arrivé, tout le monde ne l'a pas encore vu, tout le monde ne l'a pas encore reconnu. Ça marche, vous me suivez? Donc ça m'a conforté ce matin quant à la prédication. Et cette semaine, je me posais beaucoup de questions, je réfléchissais, Et je me suis dit, Jésus, dans quel contexte est-ce que tu es venu sur cette terre? Et j'ai beaucoup réfléchi à ça, et je me suis rendu compte que eh bien, Jésus, fils de l'homme, fils de Dieu, Dieu lui-même, il débarque, et il se retrouve dans une situation, y arrive-vous, peuple d'Israël, il va commencer à parler aux Juifs, on voit que la majorité, une grande partie de ce qu'il enseignait, il enseignait aux Juifs, au peuple de Dieu, il leur parlait. C'est Dieu qui se présente à son peuple, d'accord ? En tant qu'homme, et il vient à leur rencontre. Encore une fois, c'est Dieu qui a l'initiative. Il vient à leur rencontre, comme il est venu à ma rencontre. C'est lui qui a l'initiative. Et finalement, eh ben, on a eu tout l'Ancien Testament, on a donné la loi qui, finalement, c'est devenu tout un système politique avec des pharisiens, des sadducéens. Et sur ça, eh bien, on était bien vu parce qu'on faisait partie de tel rang, de telle catégorie. Et puis, on suivait la loi, on était des gens pieux. Et là, Jésus va commencer à beaucoup enseigner aux pharisiens. Il va aller dans la synagogue et il va les reprendre sur toutes ces choses-là. Et il va dire, il va les reprendre et il va dire, mais en fait, vous dites que vous suivez la loi, mais vos cœurs, c'est pas ça. Et ça va être toute une partie de l'enseignement de Jésus. Et nous, on n'est pas juifs. Et quand on lit tout ça, on a une certaine... ça nous concerne, mais c'est de loin. Vous voyez ce que je veux dire? Nous, on est des bons occidentaux, et ça ne nous parle pas toujours. Et Jésus, il aurait pu faire autre chose, franchement. Il aurait pu faire le tour de la planète, parler à tout le monde. Non, il est resté au même endroit, et il parlait à son peuple. Et son peuple, bah, finalement, c'est eux qui l'ont mis à la croix. Ils ont tout fait pour le mettre à la croix. Et la loi, c'est comme ça que Jésus va un petit peu reprendre tout le monde. Et on va voir Galates 3, verset 21, ce que dira Paul plus tard. Il va dire, la loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Certainement pas. Si une loi qui puisse procurer la vie avait été donnée, la justice viendrait réellement de la loi. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'observance de la loi l'observance de la loi ne définit pas votre foi. C'est pas parce que tu observes la loi, que tu observes des critères qui vont te rendre juste et droit devant Dieu, que ça va définir la qualité de ta foi. Tu peux pas finalement, tu peux te dire, je vais observer le sabbat tous les samedis, je vais pas manger de porc, je prends deux grandes règles, hein, et puis finalement, tu peux suivre ça et avoir aucune légitimité devant Dieu. À la fin des temps, tu auras fait tout ça, et Dieu il va dire, mais attends, c'est pas ça que je recherche. Aucune légitimité. La seule légitimité qu'on a devant Dieu, c'est en Christ, son sang qui coule. Je suis légitime devant Dieu par la foi en Jésus-Christ. Et ça, c'est la base de notre foi. D'accord? Je suis légitime devant Dieu, pas par ce que je fais, pas par mes actes, pas par une loi qui a été donnée, mais par ma foi en Jésus-Christ. Alors comprenez bien, Jésus débarque. Et là, il débarque et il vient parler à des gens qui, la loi de Moïse, la loi hébraïque, fait partie de leur identité nationale. Depuis des générations, suivre la loi, suivre les règles, suivre les rites, suivre les fêtes, suivre toutes sortes de recommandations. Et ça fait partie d'eux. C'est comme ça, de génération en génération. Et Jésus débarque là et il va leur dire, les gars, c'est super, mais c'est pas ça que je recherche. Mettez-vous à la place d'un juif de cette époque. 30 secondes. Le gars, il débarque. Il fait des miracles dans tous les sens, il bénit les gens, il reprend tout le monde, gentiment, avec amour, hein, attention, hein. Mais il reprend, oui. Et puis eux, ils se disent, mais attends, comment je peux renier tout ce qui m'a été enseigné, tout ce qui fait de moi qui je suis, tout ce qui forge mon caractère pour le suivre, lui? Mais c'est qui celui-là? Que peut-il sortir de bon de Jérusalem? Hein? Alors, c'est un peu... Ça fait réfléchir quand même. Ça fait réfléchir. On aime bien dire, ah, les pharisiens, mais ils avaient de quoi être un peu en colère, être un peu agacés, n'est-ce pas? Et puis mettez-vous un peu à la place de nos petits disciples, nos 12. Ils sont là, tranquilles, sur leur barque. Et on va lire en Marc ce qui va se passer, hein, en Luc, pardon, la rencontre de Jésus avec les quatre premiers disciples, ceux qui va appeler en premier. Alors, Jésus parlait à la foule, d'accord ? Il enseignait. Et d'un coup, quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance là où l'eau est profonde et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. » Vous savez, on a eu une prédication une fois sur le « sur ta parole, ça fait la différence », mais ce n'est pas le sujet ce matin. Ils jetèrent et prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se déchirèrent. Il y a une différence hein, quand Jésus est là. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit « Seigneur, éloigne-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » C'est le cas de le dire. En effet, lui et tous ceux qui étaient avec lui étaient remplis de frayeur à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en allait de même pour Jacques et Jean, les fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « N'aie pas peur, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Alors ils ramenèrent les barques à terre, laissèrent tout et le suivirent. Je vais lire là, c'est mieux. Alors que Jésus était dans une des villes, un homme couvert de lèpre vit, tomba le visage contre terre et lui adressa cette prière, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus tendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, la lèpre le quitta. Donc voilà les miracles. Puis Jésus lui ordonna de n'en parler à personne. Mais il dit, « Va te montrer au prêtre. » Encore une fois, « Va te montrer au prêtre. » Moi, ça me fait rire, ça. « Va te montrer à ceux qui ont la loi. » À ceux qui... Au boss, quoi. « Va te montrer à ceux qui maîtrisent. » « Va te montrer au prêtre. » J'en suis où ? Puis... Et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. J'arrive. Alors vous voyez, c'est intéressant de voir qu'à nouveau, Jésus n'est pas contre la loi. Il n'est pas contre la loi et il dit, il faut que tu fasses ce qui est juste. Ça veut dire que, petite parenthèse, la loi, elle est bonne parce qu'elle nous montre ce qu'est le bien et le mal. Donc, la loi est juste et bonne. Mais en aucun cas, la loi nous donne le salut. D'accord ? On parlait de plus en plus de lui. Voilà ce qui m'intéresse. On parlait de plus en plus de lui. Et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. D'accord ? On parlait de plus en plus de lui. Et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris. Alors, on a d'un côté ceux qui connaissent, les chefs religieux, ceux qui maîtrisent, ils sont chamboulés. Ils sont complètement retournés par ce que Jésus fait. En plus, il enseigne avec sagesse. En plus, il y a des fruits. C'est incroyable. Et d'un autre côté, on a nos disciples qui sont là et puis ils ne sont pas encore disciples. Hein, Jésus va les appeler. Ils voient qu'il se passe quelque chose et ils vont être attirés par Jésus. Et là, ils sont attirés par lui. Et je me suis posé la question, mais est-ce qu'ils ont suivi Jésus par amour, au tout début ? Il n'y a pas d'amour dans ce verset-là. Pourquoi est-ce qu'ils se mettent à suivre Jésus ? Est-ce que tu peux aimer quelqu'un comme ça, instantanément ? Ils le suivent uniquement parce que le gars, il a fait un miracle, et que là, ils sont vraiment interpellés. Et là, ils se rendent compte qu'il se passe quelque chose, et si je suis ce gars-là, je peux vivre quelque chose d'exceptionnel. C'est des gens simples. Ce n'est pas des gens compliqués dans leur tête, avec toutes sortes de doctrines, de philosophies. Et là, ce qu'ils voient, ils considèrent que c'est du sérieux. Eh bien, on va voir ce que Jésus peut faire pour moi. Et là, il y a un intérêt à suivre Jésus. Ils ont un intérêt à suivre Jésus. Et je me suis dit, ben, finalement, l'esprit de consommation n'a pas commencé avec la révolution industrielle, mais c'était déjà là bien avant. Si j'ai un intérêt, je viens. Si je n'ai pas d'intérêt, je ne viens pas. Ça a toujours été là. Ils avaient un intérêt à suivre Jésus. Ils étaient dans leurs habitudes, dans leur routine. Ils pêchaient, il ne se passait rien, encore une journée difficile. Et ce gars-là, il arrive, et il change la donne. Sur sa parole, un miracle se produit. Bah, moi aussi, j'aurais suivi. C'est intéressant. Non ? Moi, si j'étais là, Jean, en ce moment, il travaille avec moi. Hein, Jean ? Il est où, Jean ? Je te vois pas, Jean. Ah ouais, Jean, manifeste-toi. Alors, la semaine passée, je lui ai dit, alors, c'est quoi ton débriefing sur le travail manuel ? Ah, il m'a dit, tu m'as emmené que sur des chantiers pourris. J'ai dit, bah merci, hein, merci. Il était fatigué. Si Jésus était venu alors qu'on travaillait, qu'il avait tout fait comme ça facilement, on l'aurait suivi, Jean. Franchement, quel gain de temps, on se fait payer et puis ça va vite. C'est magnifique. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est intéressant. Il y a un gain. Et Jésus avait une réputation qui commençait à grandir. Les gens commençaient à suivre Jésus par intérêt. On entendait, mais celui-là, il fait quelque chose. Et vous voyez l'humilité de Jésus. Il continuait, dites-le à personne. Comme s'il faisait ça jusqu'à ce que les Juifs se rendent compte qu'il est le Messie. Vous voyez, qu'il poussait le bouchon, mais les gars, rendez-vous compte. C'est moi qui suis là. Je viens à votre rencontre. Vous m'avez suivi au travers de la loi, l'Éternel, pendant des décennies, des siècles. Maintenant, je suis là. Et vous ouvrez pas les yeux. Ça roule ? Alors, on voit que Jésus, sa réputation grandit. Et nos disciples continuent leur chemin. Pendant des années, 3 ans, ils vont le suivre et ils vont se sentir super... Super costaud, les gars. Vous voyez, dans Marc, au chapitre 3, Jésus va commencer à les nommer. Maintenant, vous êtes des apôtres. Ils sont devenus apôtres avant même d'avoir fait quoi que ce soit. Jésus a dit, Marc, chapitre 3, il est encore là, je vous appellerai mes apôtres, c'est-à-dire les envoyés. Et eux, ils sont contents. Ils sont avec l'influenceur à la mode. Vous imaginez ? Le gars, il fait des vidéos sur YouTube, il y a des millions de vues. Tout le monde le suit. Attends, c'est mon ami, il m'a choisi moi. Quand je prie pour les malades, ils sont guéris. Quand je chasse les démons, ils partent tout seuls. Purée, c'est super, hein. On est passé d'une pêche galère à un super job. Et c'est comme ça pendant 3 ans. Vous voyez, vous êtes à côté de la personne en vogue en ce moment. Vous marchez à côté de celui, ah, il y a une puissance, il se passe des choses, c'est super intéressant. Vous voyez, c'est l'attrait qui les pousse pendant quelques années. Et ils commencent à aimer Jésus, ils commencent à tisser une relation, ils commencent à réellement avoir de l'affection. Et vous allez avoir à un moment donné Jésus qui va parler de sa mort et Pierre qui va lui dire « Mais attends, s'il te plaît, reste avec nous. » Il lui dit « Arrière de moi, Satan !» Et là, nous, dans leur église, on aurait dit « Oh, il a eu un manque d'amour. » Quel manque d'amour de parler comme ça ? Il a un manque d'amour. Ah bah, il n'y a pas beaucoup d'amour là, Jésus. Ah bah ouais, c'est pas l'amour sentimental. Mais pendant 3 ans, il y avait un petit club de disciples qui étaient contents de faire des manifestations, qui étaient heureux, qui découvraient les choses. Et moi, j'appelle ça, c'était pendant 3 ans, c'était du copinage. C'était les copains. On est bien ensemble. C'est nous les meilleurs. On réussit tout ce qu'on fait. Et puis Jésus qui les reprenait. Vous êtes incrédules et machin. Et comme ça. Les bons copains. Et on va voir vraiment une différence. C'est au moment où Jésus est mort. Plongez-vous avec moi dans cette histoire. Hein. Jésus meurt, il ressuscite. Et là, il se passe quelque chose. Au chapitre 3, ils sont des apôtres. Chapitre 16, Jésus meurt. Tout le monde disparaît. Et la première chose qu'ils vont faire, c'est retourner à leurs habitudes. Quelque chose d'extraordinaire se passe. Mais ça n'a strictement rien construit dans leur vie. Rien. Parce qu'ils sont revenus à leur point de départ. Parce que tout ce qui les poussait, c'est ce qu'ils étaient capables de voir. Et quand Jésus va revenir, il va leur dire, vous êtes incrédules. Et il va les reprendre. Vous lisez chapitre 16, il va les reprendre sur leur incrédulité. Et il va dire, vous avez cru juste parce que vous avez vu. Et on a ce verset qui nous dit quoi en 2 Corinthiens, Paul qui dira « Nous marchons par quoi ? Par la foi et non par la vue. » Et là, on a des disciples, quand Jésus va revenir vers eux, qui vont complètement changer d'attitude. C'est plus les mêmes hommes. C'est plus les mêmes hommes. C'est plus ceux qui ont besoin de Jésus, qui ont besoin absolument d'être à côté de lui, qui sont les copains d'eux. C'est les hommes qui vivent réellement quelque chose, qui ont une réelle intimité et qui commencent à marcher avec les yeux de Christ. Et moi, je me suis posé la question. Je me suis dit, mais nous, alors, c'est bien hein, de voir l'histoire. Comment on peut rapporter ça à nous aujourd'hui? On n'est pas juifs. Ce n'est pas notre enseignement. Ce n'est pas notre réalité. Mais Jésus s'est quand même présenté à nous à un moment donné. Alors, qu'est-ce qu'on peut retirer pour nous? Moi, je sais que quand j'ai donné ma vie à Jésus, oh là 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 là, j'étais un bon petit disciple. Oh là là. Moi, je voulais chasser les démons partout. C'était mon truc. D'accord? On a tous un truc. Hein. Il y en a, ils veulent être sur l'estrade et chanter avec le feu. Il y en a, ils veulent aller prier pour les malades. Vous voyez, il y a un zèle, il y a le zèle de Simon au début. Hein. Vous voyez, Simon qui était tout le temps zélé, là, Pierre, qui voulait marcher sur l'eau, qui voulait déplacer les montagnes, voilà. Et moi, je me suis dit, mais au début, on vit beaucoup de choses, et d'un coup, on retombe dans nos habitudes. Et ça, aucun d'entre vous peut me dire non. Je peux vous l'assurer. Vous êtes tous, et on est tous concernés. Si les disciples ont vécu, eh ben nous aussi on le vit. On retombe dans nos habitudes. Hein, Mick ? C'est juste, hein ? On retombe dans nos habitudes. Et moi, je vais vous poser une question maintenant. C'est est-ce que vous vivez chrétiennement dans vos habitudes actuellement ? Ou est-ce que ça y est, vous êtes comme les apôtres, envoyés, remplis de l'Esprit de Christ qui vient en vous, manifestant les fruits et en ayant cette conclusion qu'on a eue de Nathalie, et c'est que les choses cachées se révèlent chaque jour, semaine après semaine. Vous découvrez sur vous-même. Vous dites, mais purée, je ne pensais pas que j'étais capable de ça. Ah, je ne pensais pas que je pouvais vivre ça avec le Seigneur. Ah, il s'est passé quelque chose en ce moment-là, mais je ne pense plus pareil. Est-ce que vous êtes en constante évolution? Et c'est ça que ça veut dire en avant. C'est ça que ça veut dire se mettre en marche, marcher. Nous marchons par la foi et pas par la vue. Parce que moi, si je m'arrête à ce que je vois, je m'arrête vite. La vie n'est pas facile, les circonstances, on s'adapte. Et l'homme, on sait combien l'homme est capable de s'adapter à toutes sortes de choses. Mais vous voyez, il manque la vie. Il manque cet assaisonnement dont parle la parole de Dieu qui fait qu'il y a une différence. Alors, où est-ce qu'on en est? Et moi, je me suis posé la question avec ce confinement. Très vite, on nous impose des choses, on a des masques, on a des choses, et on a entendu papa qui disait la semaine passée, aujourd'hui, on a une église à 3 vitesses. On l'a entendu, ça, non? Ben, dans quelle vitesse est-ce que je me situe? Est-ce que l'église, pour moi, c'est juste un endroit où je peux faire mon service? Est-ce que c'est juste un endroit où j'ai mes affinités, j'ai mon petit club de copains, et puis c'est bien, on s'invite 2-3 fois? Ou est-ce que réellement, il y a une passion pour Dieu qui dit, mais moi, je veux être capable qu'il y en ait un d'entre vous qui puisse révéler ce qu'il y a en moi, que moi, je puisse révéler ce qu'il y a en toi, que Christ se manifeste au milieu de nous. Vous voyez ce que je veux dire? Pour ensuite être le sel, réellement. Parce que là, les disciples, quand Christ est venu, ils ont commencé à voir plus grand, plus large. Ils sont allés réellement. C'était différent.